RCF. RCF, les racines du présent.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce studio pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix et désormais, comme vous le savez, en codiffusion avec Radio Notre-Dame. De tous côtés, on nous explique que la Chine est redevenue l'empire du milieu, que ce continent de presque 1,5 milliard d'habitants est de nouveau au centre du monde, sur le plan militaire mais aussi économique, technologique. La Chine peut désormais regarder de loin la vieille Europe. Mais alors, quels sont les fondements, notamment historiques, de cette nouvelle puissance, ou plutôt de cette puissance renouvelée ? Avec notre invité, nous allons tenter d'en savoir plus, de mieux comprendre l'éveil de ce nouveau géant du monde. Frédéric Lemaître, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste, vous êtes rédacteur en chef du quotidien Le Monde. Vous avez été correspondant du Monde à Pékin de 2018 à 2023. Et vous venez de publier un livre chez Talendier intitulé « 5 ans dans la Chine de Xi Jinping ». Et ce sera l'occasion pour nous d'essayer de brosser le décor d'une histoire immédiate de la Chine.
Les racines du présent. Frédéric Mounier.
Alors Frédéric Lemaître, je le rappelle, vous nous venez de Chine, vous venez de passer 5 ans en Chine, de 2018 à 2023, pour notre grand quotidien du soir, pour le compte du Monde. Alors ce qui est frappant en vous lisant Frédéric Lemaître, c'est que vous nous prenez à contre-pied, c'est-à-dire que nous avons tous plus ou moins l'image d'une Chine qui est une sorte de gigantesque Laogai, de gigantesque camp où tout le monde est surveillé par tout le monde, etc. Or, vous nous dites, Frédéric Lemaître, je vous cite, « Il faut se garder de toute lecture univoque de la Chine. La Chine, écrivez-vous, est devenue un pays où il fait bon vivre, où les villes se sont mises au vert, où l'on ne croise presque aucun SDF, où le risque de se faire agresser est quasi nul. Alors certes, vous écrivez que les espaces de liberté se réduisent, mais restent suffisants pour que le système soit supportable pour une grande partie de la population. » Alors Frédéric Lemaître, la Chine, c'est une nouvelle Suisse ?
Non, la Chine n'est pas une nouvelle Suisse, n'est pas non plus un pays social-démocrate comme l'Europe du Nord. C'est une dictature, mais comme je dis en conclusion du livre, c'est une dictature de la majorité. Je pense que j'ai vu récemment que seuls 28% des Américains trouvaient que la démocratie américaine fonctionnait bien. Je pense qu'il y a plus de la majorité des Chinois qui pensent que tout compte fait, le système communiste tel qu'ils le vivent, est plutôt positif. Voilà. Donc je pense plutôt que la majorité des Chinois soutiennent le régime. Ce qui m'a surpris, c'est pas ce à quoi je m'attendais en y allant.
Oui, évidemment. Alors on va voir au fil de cette conversation sur des points plus précis sur les différentes façons de vivre en Chine. Je voudrais nous faire remonter le temps, si vous voulez bien, Frédéric Lemaître, nous rappeler d'où nous venons. Nous allons remonter le temps jusqu'en 1973 et nous allons écouter le ministre du général de Gaulle, Alain Perfit. Nos plus anciens auditeurs s'en souviennent peut-être, Alain Perfit avait publié un livre à cette époque-là intitulé « Quand la Chine s'éveillera ». Voilà ce qu'il en dit en 1973.
Le monde devra-t-il trembler lorsque la Chine s'éveillera ?
Oh, je ne crois pas. En réalité, Napoléon avait fait cette prophétie, elle est assez frappante, parce qu'il est frappant de penser qu'il y a 160 ans, Napoléon avait deviné que la Chine sortirait un jour de son sommeil et que le jour où elle sortirait de son sommeil, les gens seraient effrayés. Et c'est bien ce qui s'est passé d'ailleurs. Depuis 1949, pendant 22 ans, on a refusé de reconnaître la Chine. Et quand De Gaulle a voulu la reconnaître, il y a 10 ans, ça a fait scandale. Mais maintenant, tout le monde s'y est fait et je crois que l'on ne tremblera plus beaucoup. Un jour viendra où la Chine aura une grande puissance industrielle et à ce moment-là, elle aura peut-être des ambitions extérieures, on n'en sait rien. Mais elle en est loin encore et elle le sait parfaitement.
Voilà, en 1973, selon Alain Perfit, la Chine était encore loin d'avoir des ambitions, disons, impérialistes. Où en étions-nous, Frédéric Lemaître, en 1973 ? Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quel état était la Chine à cette époque-là ?
Oui, politiquement, c'est assez facile. 1973, on était en plein chaos. Mao était arrivé au pouvoir en 49. Il avait une décennie 49, 59, 60 catastrophique, notamment 59, 60, avec le grand bond en avant qui, en fait, fait mourir de faim quelques dizaines de millions de personnes.
Dizaines de millions.
Dizaines de millions, 30, ouais. 40 vraisemblablement.
Voilà, c'est quand même...
Du coup, il était quand même contesté par son entourage. Et pour répondre à cette contestation, il n'a rien trouvé de mieux que de lancer les masses contre les dirigeants. C'était la révolution culturelle, ce qu'il a appelé la révolution culturelle, qui n'avait rien d'une révolution ni de culturelle, et qui a duré de 1966 à... quasiment la mort de Mao en septembre 76. Donc quand Perfit dit ça, 73, alors les États-Unis venaient, non pas encore de reconnaître la Chine, mais voilà, il y avait eu le voyage de Nixon, de Kissinger et de Nixon au début des années 70. Donc voilà, l'Occident sent là que voilà que Mao est un vieillard et que il faut préparer l'après. Et donc on en est là. Mais en 73, la Chine est en plein chaos et économiquement, certains disent même qu'elle est plus pauvre, que les Chinois étaient plus pauvre à la mort de Mao en 76 qu'il ne l'était en 49. Mmh. En tout cas, ils ne se sont pas enrichis entre-temps.
Vous nous rappelez, Frédéric Lemaître, combien de morts a fait la Révolution culturelle ?
La Révolution culturelle a fait plusieurs millions de morts aussi. C'est toujours difficile d'avoir une estimation, mais on peut dire, bon, dans un pays d'un milliard d'habitants à l'époque, c'est peut-être pas énorme, mais ce qu'il faut voir surtout, c'est que cette Révolution culturelle a traumatisé toutes les familles chinoises, notamment toutes les familles en ville, peut-être moins dans les campagnes, mais toutes les familles urbaines ont eu, voilà, leurs victimes de la Révolution culturelle, parce que les enfants dénonçaient les parents, les neveux dénonçaient leur oncle, etc.
C'est un engrenage de folie.
C'était un engrenage de folie. Le fils de Deng Xiaoping lui-même a sauté par la fenêtre et est paralysé à vie pendant la révolution culturelle. Pour ne pas parler de Xi Jinping.
Oui, lui-même qui a été touché.
Ah ben, c'est pire qu'il a été touché. Il est né en 53 dans une famille dirigeante, l'aristocratie rouge, puisque son père était un des plus proches collaborateurs de Mao. Il était quasiment vice-premier ministre. Et donc voilà, au moment où toute la Chine crevait de faim en 59-60, je pense que Xi Jinping n'avait pas de problème et son bol de riz était largement rempli. Bon, tout ça va très bien pour lui jusque 62. 62, il a 9 ans et là, son père est disgracié pour une raison obscure sur laquelle on peut revenir. Son père est envoyé travailler dans une usine au fin fond du pays, et le jeune Jinping, puisque Jinping c'est son prénom, est lui-même envoyé à la campagne dans le Shaanxi, où il va passer une dizaine d'années au milieu des paysans, il y a des poux, des puces, il est relégué,
c'était un traumatisme.
Il est vraiment passé de carrément Silla, et il rentre chez sa mère, il a 12 ans, c'est un ado, enfin un jeune ado, et sa mère le rejette, ne lui ouvre même pas la porte. Rentre retourner à la campagne, sans doute parce qu'elle a peur pour ses autres enfants. Donc voilà, c'était un véritable traumatisme. Et toutes les familles de l'élite chinoise, et pas seulement de l'élite, à partir de la bourgeoisie ou même le moindre enseignant, le moindre fonctionnaire, ont connu des situations semblables.
Alors voilà, donc la Chine a été victime de plusieurs traumatismes nationaux. Mais je voudrais remonter avec vous, Frédéric Lemaître, remonter encore plus loin dans le fil de l'histoire. Je voudrais ausculter avec vous la relation entre la Chine et l'Occident, notamment au XIXe siècle. On parle de siècles d'humiliation, on parle de traités inégaux. Est-ce que vous pouvez nous rappeler à grands traits ce qui s'est passé entre nous et eux, entre l'Europe et la Chine au XIXe siècle, Frédéric Lemaître?
Il est vrai que la Chine était une puissance impériale depuis des siècles et qu'au XIXe siècle, les Occidentaux sont allés en Asie et notamment en Chine pour y faire du commerce et obliger l'Asie, c'était le cas également au Japon, à s'ouvrir à l'Occident et au commerce.
L'obliger.
L'obliger militairement, absolument. Donc c'est ce que les Français, les Anglais notamment ont fait à la fin des années 1830. Et c'était aussi la guerre de l'opium. C'est vrai que...
Alors quel était l'enjeu de l'opium, rappelez-nous ?
Les Anglais ont obligé les Chinois à consommer de l'opium. Voilà, on le voit bien avec Tintin et le Lotus Bleu. C'est ça que ça nous raconte. C'était quand même... Voilà, c'est la conséquence de ça. Donc il faut quand même le faire. Et d'ailleurs... Il y a quand même une trace dans l'histoire aujourd'hui. Enfin, moi, je ne peux pas totalement exclure que la crise du fentanyl aux États-Unis, fentanyl dont c'est une drogue. Enfin, c'est un médicament antidouleur qui est maintenant utilisé quasiment comme une drogue parce qu'il y a une addiction à ce médicament
ultra puissant
donc qui soulage énormément, mais évidemment, on s'y habitue et donc ça devient une drogue. Il y a des millions d'Américains qui en sont victimes. Ça fait des dizaines de milliers de morts aux États-Unis.
C'est une véritable crise sanitaire. sanitaire
composants du fentanyl, certains viennent de Chine. Voilà.
Donc ce que vous nous dites, c'est que cette crise du fentanyl pourrait bien être au moins conçue dans l'imaginaire collectif chinois comme un retour à l'envoyeur de la guerre de l'opium au 19e.
Je ne peux pas totalement l'exclure.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est clair. À vrai dire, oui, je ne pense pas qu'il y ait une stratégie chinoise mais finalement, c'est un peu un effet boomerang où les Chinois renvoient la monnaie de leurs pièces aux Occidentaux. Donc c'est vrai que la Chine a été humiliée. C'est vrai que la Chine était la principale puissance mondiale, pendant la Renaissance, etc.
C'était la principale puissance mondiale. Ça, nous le savons pas.
C'était à peu près le tiers du PIB mondial, comme il l'est aujourd'hui, déjà au 15e, 16e siècle. Voilà.
Et après. Et ça, nous ne l'avons pas appris à l'école.
On ne l'apprend pas à l'école.
Merci de nous le rappeler.
Et voilà, après, il y a eu le déclin de l'Empire, les Occidentaux qui sont arrivés là, les Chinois qui ont été divisés. Certains disaient, effectivement, pour être moderne, il faut être comme les Occidentaux, d'autres le niaient. Et voilà, c'était quand même le déclin de l'Empire au début du 20e siècle, 1911. Et on a eu une guerre civile de 1911 à 1949. Donc ça fait un siècle d'humiliation. Il y a eu les seigneurs de la guerre, l'occupation japonaise.
Qui a fait des millions de morts.
Qui a fait également des millions de victimes. Les Japonais ont été d'une cruauté sans nom. Et donc voilà, les Chinois aujourd'hui relèvent la tête et Xi Jinping joue beaucoup là-dessus en disant on était humiliés par les Occidentaux. Évidemment, il ne dit pas que beaucoup de Chinois évidemment ont collaboré avec les 10 Occidentaux et il ne dit pas non plus que parmi ces Occidentaux figure la Russie. Mais ces deux parenthèses mises à part, c'est vrai qu'ils ont été humiliés par les Occidentaux et tout le discours actuel, c'est dire grâce à nous, la Chine redevient le centre du monde. Elle ne va pas devenir le centre du monde, elle va le redevenir.
Ce qui est le nom même de la Chine, l'Empire du Milieu.
Voilà, c'est l'Empire du Milieu, absolument.
Donc il faut se rappeler cette origine-là. Il faut se rappeler aussi que sous le Second Empire, nous avons vécu ce qu'on appelle le sac du Palais d'été, où les troupes françaises ont saccagé et pillé le palais de l'empereur à Pékin et ont ramené chez nous, en France, des quantités très importantes d'antiquités qui se trouvent aujourd'hui encore dans les musées français, Frédéric Lemaître.
Oui, alors ça, c'est très, très intéressant. Oui. Parce qu'effectivement, il y a eu ça, sac du Palais d'été, dénoncé immédiatement par Victor Hugo.
Oui.
Texte superbe qui montrait que les barbares, c'était pas eux, c'était nous.
Mais nous et les Anglais, il faut rappeler.
Nous et les Anglais, Européens, nous et les Anglais, absolument. Mais ce qui est très intéressant, c'est que finalement, la Chine en parle assez peu de cet épisode-là.
Oui.
Pourquoi ? Pour deux raisons. Parce que si ils ouvrent cette boîte, ça peut être une boîte de Pandore, parce que d'abord, ceux qui ont quand même le plus détruit le patrimoine chinois, ce sont les Chinois eux-mêmes pendant la révolution culturelle. Il y avait 3000 temples à Pékin au début du 20e, il n'y en a plus qu'une dizaine maintenant.
Il
y a eu une autodestruction. Et en plus, où sont les plus belles œuvres du patrimoine chinois ? Pas au Louvre, pas à la National Gallery, pas même dans la cité interdite, mais au musée national de Taipei, à Taïwan, emmené par les nationalistes.
L'ancienne Formose.
Et voilà. Et là, c'est compliqué pour les Chinois de demander le rapatriement, puisque Taïwan, c'est la Chine.
Oui.
Donc,
On voit l'ambiguïté de la situation.
Et donc, je trouve que la Chine, qui est très vindicative sur des tas de sujets, sur ce sujet-là, fait plutôt profil bas, en fait.
Mais en tout cas, on garde à l'esprit en vous écoutant, Frédéric Lemaître. Et je rappelle le titre de votre livre, « 5 ans dans la Chine » de Xi Jinping, par le correspondant du Monde à Pékin, c'est chez Talendier. On garde à l'esprit que dans l'imaginaire collectif chinois, et j'imagine dans les programmes scolaires, par exemple, la Chine a été victime d'une humiliation venue de l'extérieur.
Absolument.
Et que ceci conditionne beaucoup de choses encore aujourd'hui.
Tout à fait. Et c'est une des raisons pour lesquelles la Chine a une vision du monde totalement différente de l'Amérique.
Voilà, L'Amérique vit
l'immigration comme une richesse et l'Amérique, elle, n'a jamais été envahie et humiliée par les étrangers. Ils sont actuellement Pearl Harbor, mais c'est différent. Et alors que la Chine, elle a été vraiment humiliée et elle s'est bâtie. Voilà, on l'a vu aussi avec la Grande Muraille de Chine. La tentation du repli, c'est l'empire terrestre et qui voit le danger venu de l'Occident. Le danger militaire au 19e siècle et fin 20e siècle, si on peut en parler avec le régime communiste et notamment Xi Jinping, le danger idéologique.
Les racines du présent. Une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Au micro, Frédéric Mounier, nous sommes aujourd'hui avec l'ancien correspondant du Monde à Pékin, Frédéric Lemaître, qui publie un livre relatant son expérience chez Talendier. C'est intitulé « 5 ans dans la Chine » de Xi Jinping. Avec vous, Frédéric Lemaître, nous venons de retracer à grands traits l'histoire de l'humiliation des Chinois par l'Occident, aussi par les Japonais et aussi par les Russes. Voilà. Mais disons que dans l'imaginaire collectif, vous nous avez expliqué, Frédéric Lemaître, à quel point cette humiliation est encore présente, cette humiliation qui date du 19e siècle. Et pourtant, ces dernières générations, des centaines de millions de Chinois, 800 millions de Chinois, écrivez-vous, Frédéric Lemaître, ont profité d'un ascenseur social à la rapidité époustouflante. C'est quand même fascinant de voir à quel point ce pays a été détruit par l'extérieur, s'est autodétruit, vous nous l'avez expliqué, avec le grand bond en avant, avec la révolution culturelle. Et puis, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que cet immense ascenseur social a emporté une classe moyenne de près d'1 milliard de Chinois vers un niveau de consommation presque équivalent au nôtre. Quelle est la clé de ce mystère, Frédéric Lemaître ?
Force est de constater qu'une des clés, c'est quand même les décisions qu'a prises le Parti communiste, non pas depuis 1949, mais depuis la mort de Mao à la fin des années 70. Ça, c'est clair que c'est quand même la politique d'ouverture et de réforme, selon son officiel, mise en place par Deng Xiaoping très progressivement, à partir de la fin des années 70 et notamment à partir des années 90, qui a permis cet enrichissement spectaculaire. Enfin, c'est du jamais vu. Effectivement, il y a 500 millions de personnes qui sont vraiment sorties de la pauvreté. Aussi, une bonne santé, plusieurs centaines de millions qui sont vraiment devenus riches, enfin vraiment une classe moyenne aisée. Et ça, c'est sans équivalent. Quand on compare avec l'Inde, les deux pays étaient au même niveau en 78, oui, à peu près au moment de la mort de Mao. La Chine est aujourd'hui 5 fois plus riche. Voilà, moi, je dis dans mon livre, je rencontrais souvent des Chinois qui disent « je suis pas communiste », mais je reconnais que quand je compare la situation de notre pays avec les autres pays dits du tiers-monde ou émergents ou du sud global, force est de constater qu'on s'en sort mieux maintenant. Voilà,
mais
ça,
alors,
c'est une vraie réalité.
Mais comment l'analyser, Frédéric Lemaître ? S'agit-il d'une victoire finalement du Parti communiste, ou s'agit-il d'une victoire du capitalisme qui a su s'accommoder du Parti communiste ?
Alors, je pense que la réponse n'est pas seulement une victoire du Parti communiste, puisque notamment la Corée du Sud, toute l'Asie du Sud-Est s'est également développée, même sans Parti communiste. Donc, on ne peut pas dire que le Parti communiste est une condition nécessaire pour moderniser le pays. Il y a d'autres moyens d'y parvenir. Premièrement, je pense que, évidemment, la masse du pays a énormément joué dans le succès de la politique mise en œuvre. Et par ailleurs, ce Parti communiste, pour parvenir au résultat actuel, s'est ouvert et réformé et a suivi la voie capitaliste pendant une trentaine d'années.
C'est ça le paradoxe.
Oui. Avec comme symbole clé décembre 2001, avec l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce. Voilà. Donc
là, elle est rentrée dans le monde ce jour-là.
Elle est rentrée effectivement
dans le système.
Dans le système, totalement.
Et elle a su en tirer parti.
Oui, tout à fait. Et ça, bon, après, les Occidentaux peuvent le regretter ou non. Ça, après, il y a un débat. Mais les Occidentaux étaient convaincus que la démocratie est un système plus efficace. Forcément, la Chine, au nom de l'efficacité, allait se réformer, allait devenir plus démocratique. Bon, les 15 dernières années nous ont montré que c'était pas si simple.
Alors, le Parti communiste, vous nous rappelez dans votre livre qu'il compte 100 millions de membres. Et vous dites que c'est une véritable boîte noire. Expliquez-nous.
Alors oui, 100 millions de membres, c'est la plus grosse organisation, je crois, au monde. Voilà. C'est compliqué d'adhérer au Parti communiste.
Ah oui, c'est un privilège.
C'est évidemment un privilège. C'est l'élite qui y est. Il faut avoir été bon à l'école, avoir été bon à l'université. Et puis si vous faites la demande, votre cas est étudié pendant 1 an, 2 ans même. Vous avez une formation. On fait une enquête sur votre entourage. Si votre père a des appartements aux États-Unis ou si votre sœur est mariée à un Australien, j'en sais rien. Ça joue pas dans votre sens. Si vous travaillez dans une entreprise étrangère non plus, c'est pas terrible. Donc voilà, Xi Jinping lui-même a fait 9 fois sa demande avant d'être accepté.
Oui.
Hein, il faut se souvenir de ça quand même.
Oui.
Donc il n'a été accepté qu'à 10e fois, sauf erreur. Donc voilà.
Donc c'est un privilège.
Donc c'est un privilège.
Et alors
cette boîte noire, évidemment, parce que tout remonte, c'est vraiment un système pyramidal et on ne sait pas comment ça fonctionne. Je suis incapable de vous dire,
même après 5 ans,
même après 10 ans,
oui,
je suis incapable de vous dire comment fonctionne le comité permanent du bureau politique. C'est cet homme qui, ce ne sont que des hommes, qui dirige le pays. Personne ne sait vraiment comment ça marche. Il y a des discussions entre eux, si c'est leurs décisions qui sont collégiales, etc. Ça va même plus loin. Je me donne un exemple dans mon livre. Je crois que c'est en mars 2020 où Xi Jinping, face à l'épidémie du Covid, organise une vidéoconférence avec des responsables du parti. Pas quelques-uns, 70 000
vidéoconférence.
Alors je vous rassure, la vidéoconférence, c'est pas comme notre entretien, c'est pas question-réponse.
Hein. D'accord.
C'est lui qui parle. Apparemment, il peut. Mais ce qui me fascine le plus, c'est que, sauf erreur, je n'ai pas vu un seul étranger, un seul diplomate ou un seul journaliste qui ait été au courant avant cette conférence. On l'a tous su après. Donc ils sont capables de faire une réunion avec 70 000 personnes sans que ça sache.
Sans que personne ne le sache.
De même que pendant le Covid, il y a quand même eu des millions de gens qui ont été confinés. On a parlé de Shanghai, mais il y a dans une bonne centaine de villes, il y a aussi des confinements aussi, voire davantage stricts que celui de Shanghai, sans qu'on le sache.
Alors on va revenir évidemment sur cet épisode du Covid, mais je voudrais vous faire écouter avec nous, Frédéric Lemaître, cet épisode assez incroyable qui a eu lieu le 22 octobre 2022 à Pékin. C'était la clôture du 20e congrès justement de ce fameux parti communiste chinois. Et on va l'entendre dans ce document de TV5 Monde. Tout ne se passe pas comme prévu. Vous allez nous analyser ces images ensuite, Frédéric Lemaître. On écoute.
Je déclare maintenant la clôture victorieuse du 20e congrès du Parti communiste chinois.
Au son de l'international, Xi Jinping surplombe les 2300 délégués réunis à huis clos depuis une semaine au Palais du Peuple, place Tiananmen. Leur mission, tracer l'avenir politique de la deuxième puissance mondiale. À l'issue de ce congrès, 20e depuis la création du parti en 1921, le président chinois devrait sans surprise être reconduit au poste de secrétaire général du parti. Une formalité prélude à son couronnement pour un troisième mandat en mars prochain. Car après avoir modifié la constitution en 2018, le maître de Pékin peut désormais régner à vie. Pas de désignation de dauphin donc, mais un comité central, sorte de parlement interne au Parti communiste chinois, en partie renouvelé. Autre réforme, l'inscription dans la charte du Parti communiste chinois d'une mention sur l'opposition de Pékin à l'indépendance de Taïwan. Dans cette cérémonie très chorégraphiée, un seul faux pas, l'ancien président Hu Jintao, 79 ans, incité à se lever de son siège, situé à côté de celui de Xi Jinping, visiblement contre son gré. Celui qui a dirigé la Chine de 2003 à 2013 est ensuite escorté vers la sortie. La version officielle est parvenue quelques heures plus tard. Hu Jintao ne se sentait pas bien, selon les médias chinois.
Voilà, c'était le 22 octobre 2022, donc la clôture du 20e congrès du Parti communiste. Je le disais, tout ne s'est pas passé comme prévu. Quel regard portez-vous sur cet épisode, Frédéric Lemaître ?
Ah, c'est évidemment fascinant. D'abord, il faut préciser que le monde entier a vu cet épisode, à l'exception d'un pays. Évidemment la Chine. Ça n'a pas été montré. Et d'ailleurs, il n'y a pas de version officielle de l'incident Hu Jintao. Il y a simplement les médias étrangers qui étaient présents ont montré effectivement que cet homme était âgé, mais semblait en possession de tous ses moyens, voulait simplement ouvrir le dossier qu'il avait devant lui, dossier dans lequel figuraient les noms des membres du bureau politique et du comité permanent du bureau politique.
C'est le cœur du cœur du
parti. Voilà, c'est le cœur du cœur. Il a sans doute voulu ouvrir pour voir si les gens qui étaient proches de lui avaient réussi à garder leur poste ou pas. Et ça n'a pas plu à Xi Jinping, parce qu'effectivement, il s'attendait à avoir certains noms qu'il n'a pas vus. Donc ça prouve déjà que les décisions, enfin, Xi Jinping les a prises quasiment seul et au dernier moment. Ça, c'est la première chose. Et après, on voit Hu Jintao partir. Mais il n'y a pas de version officielle de ce départ. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a simplement le rédacteur en chef de l'agence Chine Nouvelle, l'agence de presse officielle, qui, simplement sur Twitter, le soir même, en anglais, a dit ce qu'on vient d'entendre. Le camarade Hu Jintao a eu un malaise dans la matinée, mais rassurez-vous, maintenant ça va mieux. Mais ce n'est pas un discours officiel, il n'y a pas eu un communiqué souhaitant le bon rétablissement du camarade Hu Jintao, etc., etc. Donc c'est un non-événement pour les Chinois. Et pourtant, évidemment, c'est majeur. Donc, et ça prouve aussi, pardon, que Xi Jinping n'a aucun respect, c'est aussi le message qu'il a voulu envoyer, pour les anciens. Et moi, d'ailleurs...
Ça compte en Chine.
Ah ben oui, d'ailleurs, vous faites une émission sur l'histoire. Moi, je trouve que le document le plus intéressant publié par le parti ces dernières années, c'est le document sur l'histoire, la résolution sur l'histoire adoptée par le Parti communiste à l'automne 2021, donc un an avant lui. C'est la troisième fois que le Parti communiste se penchait sur sa propre histoire. Et on a vu ça comme la marque que Xi Jinping, étant capable de réécrire l'histoire, avait tous les pouvoirs. Et on avait raison. Et il faut lire ce document qui est d'une sévérité absolue sur ses prédécesseurs. À l'entendre, le parti allait à volo et le pays allait connaître la même destinée que l'Union soviétique dans les années 80. Donc on n'ose pas trop toucher à Deng Xiaoping. Évidemment, c'est grâce à lui que les Chinois se sont enrichis. Mais alors, aux successeurs de Deng Xiaoping et aux héritiers de Deng Xiaoping, Xi Jinping est... terrible. Enfin, je trouve ce document d'une violence pour des gens qui sont encore en vie. Voilà.
Donc voilà. Le parti conditionne l'histoire et il conditionne aussi, je crois qu'il faut le rappeler, et vous le dites dans votre livre, Frédéric Lemaître, il conditionne aussi les programmes scolaires. On oublie trop souvent à quel point les programmes scolaires dans beaucoup de pays du monde, y compris chez nous du reste, peuvent conditionner l'opinion publique. Mais vous nous rappelez que dans les programmes scolaires chinois, on ne parle pas par exemple de l'origine mandchoue et non chinoise de la dernière dynastie, les Qing, qui ont régné de 1644 à 1921. On ne parle pas de l'importance des conseillers russes en 1921, au moment de la naissance du Parti communiste chinois, et on ne parle pas, surtout pas, du rôle majeur joué par les nationalistes, aujourd'hui à Taïwan, dans la lutte contre l'occupant japonais. Frédéric Lemaître, ce sont des zones d'ombre assumées.
Ah, ce sont des zones d'ombre assumées. Hein. Le parti dirige l'histoire. Xi Jinping a dit en 2017 une phrase fascinante au 19e congrès, le parti contrôle tout, le nord, le sud, l'est, l'ouest, le centre. Voilà, et il contrôle notamment son histoire. Ça, c'est vraiment l'héritage du maoïsme. Le parti assume écrire son histoire. Tout le reste, il y a une expression pour dénigrer tout ce qui n'est pas histoire officielle. Donc, il n'y a d'histoire qu'officielle. Voilà même ce qu'on peut dire. On peut aller jusque-là. Il n'y a d'histoire qu'officielle en Chine. Tout le reste, c'est de la manipulation occidentale ou je ne sais quoi.
Mais alors, vous, Frédéric Lemaître, qui avez eu des contacts avec de nombreux intellectuels chinois, sont-ils vraiment sur cette ligne-là ou bien disposent-ils de sources d'informations autres qui leur permettent d'en savoir plus sur leur propre histoire? Autrement dit, les élites chinoises sont-elles lucides ou pas sur leur propre histoire, Frédéric Lemaître?
Les élites chinoises, oui. Alors, voilà, d'ailleurs, je montre dans mon livre, je pense qu'il n'y a pas de société civile chinoise organisée, mais il y a quand même une opinion chinoise. Et il y a une élite chinoise. Et il ne faut pas croire qu'il y a 1,4 milliard de Chinois lobotomisés ou qui pensent comme Xi Jinping. Évidemment qu'ils le sachent d'abord. Parce qu'ils voient bien, on l'a dit, la révolution culturelle a été un traumatisme dans chaque famille. Donc voilà, ça, ils le savent totalement. Ils en sont conscients. Ça, c'est la première chose. Et il y a quand même des intellectuels courageux, quelques historiens ou quelques cinéastes. Voilà, comme Wang Bing, qui commencent à faire voilà, maintenant des documentaires sur le grand bond en avant, sur la grande famine, sur la révolution culturelle. Donc oui, je pense qu'une majorité de Chinois sait que le parti n'a pas toujours été un gage de stabilité. Voilà, ils en sont conscients, même s'ils ne savent pas tout ce qui s'est passé. Et généralement, les Chinois sont même davantage au courant de ce qui s'est passé à l'étranger que dans leur propre pays. Néanmoins, l'élite chinoise, oui, sait ce qui s'est passé, évidemment, et au courant.
Les racines du présent. Une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Au micro, Frédéric Mounier, nous tentons aujourd'hui de retracer une histoire immédiate de la Chine en compagnie de notre invité, le journaliste Frédéric Lemaître, qui a été correspondant du Monde à Pékin de 2018 à 2023 et qui publie aujourd'hui chez Talendier un livre dont je vous recommande la lecture, 5 ans dans la Chine de Xi Jinping. Alors, Frédéric Lemaître, on a vu à quel point le Parti communiste est à la fois une boîte noire et le pivot de toute la vie de ce 1,3 milliard d'habitants qui est aujourd'hui en train de revenir au centre du monde. Dans quelles conditions avez-vous pu exercer votre fonction de journaliste en Chine? Comment ça fonctionne au jour le jour, Frédéric Lemaître?
La question est vaste. D'abord, avant de fonctionner au jour le jour, faut rentrer en Chine. Oui. C'est un détail, mais qui n'en est pas un, parce que quand vous êtes un journaliste occidental, vous attendez un visa pour rentrer en Chine. 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Moi, j'ai attendu 7 mois et mon successeur a attendu 1 an. Donc voilà. Et si vous êtes américain, quasiment, vous l'avez pas, votre visa.
Il faut rappeler que paradoxalement, aujourd'hui, pour les touristes qui rentrent en Chine, il n'y a plus de visa.
Alors,
c'est ce paradoxe.
Oui, c'est ce paradoxe. Disons que depuis le 1er décembre 2023, certains Européens, notamment les Français, les Espagnols, les Italiens, les Allemands, les Néerlandais et je crois les Suisses, peuvent aller 14 jours en Chine sans visa.
D'accord. Voilà. Alors, revenons à vous, journalistes.
Mais pas les journalistes.
Oui,
alors, les journalistes, il faut attendre un visa plusieurs mois, voire 1 an. Ce visa, vous l'avez pour une durée maximale d'un an. Et on a découvert en 2019 qu'on pouvait avoir des visas pour moins d'un an, 6 mois, c'était mon cas, 3 mois, voire 1 mois pour l'un d'entre nous. Et il y a même 2 journalistes australiens, eux c'était l'inverse, ils étaient en Chine et ils n'ont pas eu le droit de quitter le pays. En fin de compte, ils ont dû passer par leur ambassade pour pouvoir quitter le territoire. Donc voilà, ça c'est pas facile. Mmh. Évidemment, on est surveillé.
De quelle façon ?
Alors, on est surveillé, à vrai dire, il y a plusieurs façons. Je suis honnête et je précise que je ne me suis jamais senti en danger en Chine, en danger physiquement.
Oui.
Voilà, donc ça il faut quand même le dire. Mais dès que vous sortez, vous avez le droit maintenant, depuis 2008, les journalistes peuvent quitter Pékin sans demander l'autorisation et sans avertir de leur déplacement. Donc je pouvais circuler dans toute la Chine, à l'exception notable du Tibet. Les journalistes étrangers n'ont pas le droit d'aller au Tibet. Et
alors que les touristes peuvent y aller.
Les touristes peuvent
encore
y aller.
Une fois, oui.
Et matériellement, c'est impossible quand vous êtes journaliste d'acheter un billet de train ou d'avion pour vous rendre au Tibet. Mmh. Néanmoins, le reste du temps, quand vous vous déplacez, vous allez à l'hôtel. Et là, dès que vous arrivez à l'hôtel, le réceptionniste envoie la photocopie de votre visa au commissariat de police du coin. Et là, soit il ne se passe rien, soit la police vient vous voir, vous demande ce que vous faites là. Et dans le meilleur des cas, entre guillemets, elle vous accompagne pour vous aider, évidemment. Mmh. Pour vous aider à rentrer en contact avec les habitants. Donc voilà, dans ce cas-là, on est surveillé. Il arrive même que la police vous reconduise directement à la gare et à l'aéroport. Comme ça, au moins, les choses sont claires.
Ouais.
Voilà. Mais malgré tout, voilà, ça arrive. Ce n'est pas la majorité des cas. Disons que dans la majorité des cas, vous êtes plus ou moins surveillé par la police. Grosso modo, plus vous vous éloignez de Pékin et de Shanghai, plus c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des journalistes étrangers et on est des fauteurs de troubles pour eux. Mais enfin, globalement, on y arrive. Mais à vrai dire, moi, c'est quand même la première fois de ma longue carrière que je me suis auto-censuré, non pas pour me protéger, mais pour protéger les Chinois. Et ça, c'est plus important. C'est-à-dire, au-delà de la surveillance que la Chine exerce sur nous, les journalistes, et elle le fait aussi par les réseaux sociaux, elle surveille les Chinois. Et voilà, il est
arrivé. Donc les gens que vous rencontrez.
À de multiples reprises, oui. Que je n'ose même pas solliciter certaines personnes pour ne pas les mettre en danger, mmh. ou que je n'ose pas leur poser certaines questions pour les mettre en danger. Et évidemment qu'il y ait des pressions, ça arrive aussi assez souvent, qu'il y ait des pressions sur les Chinois qui avaient accepté de me rencontrer. Ça arrive.
Donc c'est quand même un sacré paradoxe. Vous décrivez un pays où, dites-vous, il fait bon vivre, mais où il est difficile de travailler en tant que journaliste.
Voilà, c'est ça.
C'est ça,
je pense,
paradoxe,
qu'il fait bon vivre pour la plupart des Chinois. Voilà, je vais même pousser le bouchon un peu loin, mais je pense qu'une grande majorité de Chinois ne se sont jamais sentis aussi libres qu'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que leurs parents sous Mao, ils ne pouvaient pas voyager à l'étranger, ils ne pouvaient pas habiter où ils voulaient, ils ne pouvaient pas voyager où ils voulaient, ils ne pouvaient pas travailler où ils voulaient, et ils ne pouvaient pas épouser qui ils voulaient. Maintenant, le Chinois peut voyager à l'étranger, il peut habiter à peu près où il veut, il peut travailler où il veut, il épouse qui il veut.
Donc, il peut gagner de l'argent.
Et il peut gagner de l'argent.
Oui.
Et il en gagne.
Il peut investir.
Donc la situation faite aux journalistes étrangers n'est pas forcément révélatrice de la façon dont le voient les Chinois. Et ça, je suis bien obligé
de
paradoxe,
constater. Quel paradoxe.
Absolument.
Alors, vous avez un chapitre tout à fait passionnant, Frédéric Lemaitre, dans votre livre « 5 ans dans la Chine de Xi Jinping » chez Talendier. Un chapitre tout à fait passionnant consacré au Covid. Vous écrivez « Comment le Covid a changé ma rue ». Racontez-nous.
Oui, donc comme chacun sait, le Covid est apparu en Chine. On peut en débattre, décembre 2019 ou janvier 2020.
Mais les Chinois pensent qu'il est venu de l'étranger.
Les Chinois pensent qu'il est venu de l'étranger. Oui, je pense qu'une partie des Chinois pensent qu'il est venu de l'étranger, absolument. Et voilà. 2020 et 2021... Je trouve personnellement que les Chinois ont à peu près bien géré le Covid. Le système politique et la taille du pays ont fait qu'ils ont confiné, on l'a vu à Wuhan, les cas de Covid. Et en fin de compte, jusqu'en 2022, moi je ne connais aucun Chinois qui connaissait un Chinois qui avait le Covid. Mmh. Voilà, tout s'est dégradé à une vitesse phénoménale en 2022 avec l'arrivée d'Omicron. Et le symbole de cette dégradation et même de l'impasse dans lequel s'était mis le système sanitaire chinois, c'est évidemment le confinement de Shanghai en 2022. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'avec ces 3 ans de politique zéro Covid, ça a totalement changer le pays, ce qui n'est pas vraiment le cas de la France, par exemple.
Dans quel sens, oui.
Déjà, le pays s'était fermé. Ils ont quand même annulé 97% des vols internationaux. 97% des vols internationaux pendant 3 ans. Et donc, il y a beaucoup moins d'échanges. Ouais. Les Chinois ne venaient plus à l'étranger. Nous, on n'allait plus en Chine, etc., etc. Ça, c'est la première chose. Par ailleurs, 3 ans, c'est catastrophique pour le commerce, évidemment. Donc c'est aussi pour ça que je dis
le cœur battant de la Chine.
C'est pour ça que je dis que le Covid a changé ma rue. C'est que j'ai bien vu dans ma rue, la plupart des restaurants ont fermé, d'autres ont rouvert depuis. Mais enfin, c'était catastrophique pour l'économie privée. Par ailleurs, c'est vrai que j'aimais beaucoup ma rue parce qu'il y avait un vieux marché, avec encore des paysans qui venaient à 6h du matin pour nous vendre leurs fruits et légumes. Et ce marché a été fermé à partir de juin 2020. Les autorités en ont profité. Elles n'aiment pas trop ces marchés ouverts. Donc, elles en ont fait un marché moderne et aseptisé. Donc, voilà, c'est vrai que c'est intéressant parce que ça montre aussi que pendant le Covid, les autorités en ont profité pour moderniser quand même un peu le pays. C'est pas vrai que la Chine d'aujourd'hui est la même qu'en 2018. Je pense qu'elle s'est modernisée, que les villes sont plus vertes, qu'elles sont plus propres. Voilà. Les vieux marchés ont été remplacés par des marchés plus modernes, même si personnellement je le déplore. D'un autre côté, la Chine a également évolué d'un point de vue politique où là on peut dire qu'elle a régressé. Mais la Chine a changé. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce bouquin. Je pense que ma légitimité, c'était un peu de raconter ces 5 années de changement.
Et puis, il y a eu pendant cette période du Covid des contestations populaires quand même, ce qui était une nouveauté.
Oui, il y a eu, dès le début, à Wuhan, on a vu, il y a même eu des livres qui ont été écrits sur le confinement de Wuhan. Donc, il y a déjà une petite contestation. Il y a aussi une contestation dès le début sur la façon dont les autorités géraient le Covid, et notamment sur leurs mensonges de janvier 2020. C'est aussi pour ça que je montre qu'il y a une opinion publique en Chine. Oui. Vous savez très bien qu'il y a un individu qui, en janvier 2020, à Wuhan, a osé dire « Attention, il y a une contamination d'homme à homme. » Cet individu a été mis en prison pendant pas longtemps, mais il a quand même été arrêté. Et il a fallu attendre 15 jours, 3 semaines avant de voir que cet individu n'était autre qu'un des médecins les plus célèbres et les plus compétents de Wuhan, qu'il était en fait un lanceur d'alerte. Et le pauvre, le docteur Li, il en est mort mi-février 2020. Mmh. Et ça a provoqué une émotion énorme dans le pays. Donc voilà, là il y a déjà...
Parce que le pays l'a su.
Ah, le pays l'a su, bien sûr, parce que il y a quand même les réseaux sociaux existent malgré la censure. Je pense que la censure est assez intelligente. Elle permet, d'ailleurs comme le faisait Mao, elle laisse l'opposition un tout petit peu s'exprimer pour voir qui s'exprime, quelles sont les têtes qui se lèvent, éventuellement réprimées par la suite.
Il y a un peu de vapeur qui sort.
Et voilà, elle permet effectivement, il y a un peu de vapeur qui sort. Et elle sait qu'elle ne peut pas tout contenir. Elle a fait de la stabilité l'alpha et l'oméga de sa politique. Donc elle laisse sortir un peu de vapeur, c'est exactement ça. Donc il y a une contestation qu'elle a canalisée très vite, mais il y a quand même une contestation au début 2020. Et puis il y a surtout une contestation à la fin 2022. On a beaucoup parlé des manifestants de Shanghai fin 2022, dont certains réclamaient la démission de Xi Jinping. Honnêtement, ils étaient quelques centaines. Personnellement, je pense qu'il ne faut pas attacher. C'est courageux, c'était bien, c'était important. Néanmoins, c'est pas ça, je pense, qui a été déterminant. Ce qui était déterminant, c'est qu'au bout de 3 ans, les gens avaient ras-le-bol. Même si Xi Jinping avait quitté pour la première fois la Chine en octobre 2022 pour se rendre au sommet du G20. Par ailleurs, on voyait qu'avec Omicron, le système était devenu totalement inefficient.
Le nouveau variant.
La politique ne tenait plus la route. Les villes croulaient sous les dettes parce qu'on passait notre temps à avoir des tests, ça coûtait cher, 2% du PIB à peu près, quand même, pour des trucs totalement inefficaces, puisque vous pouvez passer un test, c'est pas ça qui va évidemment vous guérir. Et en novembre, il y a eu des manifestations à Canton d'ouvriers migrants qui ne pouvaient pas rentrer dans leur dortoir. Il y a eu après l'usine Foxconn, qui est une des plus grandes usines chinoises qui fabrique des iPhones en Chine, qui était, c'était le chaos absolu entre les ouvriers qui avaient le Covid, ceux qui ne l'avaient pas, etc., etc. Le patron de Foxconn a tiré la sonnette d'alarme. Et après, il y a eu ces manifestations à Shanghai. Et voilà, donc il y a quand même une opinion publique qui est capable d'une façon ou d'une autre de se manifester, tant qu'elle ne remet pas en cause le leadership du parti.
Et pourtant, le parti ne contrôle pas tout, donc, puisqu'il y a de la vapeur qui sort quand même, de la cocotte. Quoi.
Absolument, le parti ne contrôle pas tout.
Oui.
Absolument.
Alors, parlons d'un autre dossier qui aujourd'hui compte beaucoup sur le plan diplomatique, l'ancienne Formose, Taïwan. Vous écrivez « Le peuple chinois n'est pas prêt à la guerre. Les Chinois sont patriotes, mais pas bellicistes. » Vous avez tendance plutôt à nous apaiser, Frédéric Lemaître, sur cette menace. Expliquez-nous.
J'apaise dans le sens où je ne pense pas que la menace soit immédiate. Voilà, je sais que la CIA a dit que c'était peut-être pour 2027, parce que 2020... En fait, Xi Jinping a dit que l'armée devait être prête en 2027. Voilà, il n'a pas dit...
Parce que l'armée ne cesse de monter en puissance aujourd'hui.
L'armée ne cesse de monter en puissance technologiquement, certes, mais je pense qu'il y a encore une telle corruption au sein de l'armée, et notamment à sa tête, qu'il faut sans doute relativiser la puissance effective de l'armée. Je pense que c'en est une. Les Taïwanais eux-mêmes, voilà, si je dis qu'il n'y a pas de risque, c'est aussi parce que je suis allé à Taïwan à deux reprises en 2023, en mai et en décembre. Et que
depuis la Chine, on peut y aller, ça circule.
Ouais, depuis la Chine. Si vous êtes chinois, c'est compliqué. Et si vous êtes membre du parti, vous ne pouvez pas, grosso modo. Mais paradoxalement, là, les étrangers peuvent y aller plus facilement. Oui, il y a des vols directs entre Pékin et Taïwan, et entre Shanghai et Taïwan aussi. Donc, nous, on peut aller facilement à Taipei.
Donc, votre sentiment ?
Le sentiment des Taïwanais, c'est que la Chine n'est pas prête, elle ne sera pas prête avant le début des années 30, 30-35, on n'en sait rien exactement. Et par ailleurs, je pense, Xi Jinping n'est pas un va-t-en-guerre, c'est un nationaliste, mais ce n'est pas un va-t-en-guerre. Et effectivement, pour les Chinois, il n'y a pas débat. Taïwan, c'est la Chine. Hein, c'est ce qu'on leur a appris à l'école là-dessus. Oui. C'est incontestable.
Encore les programmes scolaires.
Oui. Néanmoins, les Chinois ne se lèvent pas le matin en disant vivement qu'on reprenne Taïwan, qu'on devienne citoyen d'un grand pays. Non, parce qu'ils le sont déjà, citoyens d'un grand pays, ils le savent bien. Et au contraire, une réunification, comme dit le Parti communiste, par la force, ne peut qu'entraîner des problèmes quotidiens aux Chinois qui vont être victime des sanctions occidentales, etc. Il le voit bien. Et surtout, il voit bien en Ukraine qu'une guerre, on ne sait jamais exactement comment elle peut se passer. Mmh. Et les Chinois n'ont pas envie de tuer que leur enfant unique, leur fils unique, meure pour Taïwan. Ça, c'est évident. Alors, parti le sait bien.
On va rappeler cette question des enfants uniques. Pour nous aider à comprendre le statut de Taïwan. Vous rappelez cette citation d'un diplomate français, Frédéric Lemaître, qui dit que pour les Chinois, Taïwan serait comme une Corse où se serait réfugié Pétain en 1945 et qui refuserait de réintégrer la mère patrie. Jusqu'à quel point l'analogie Corse vous paraît-elle valide, Frédéric Lemaître ?
Oui, c'est une analyse de Maurice Gourdeau-Montagne qui a été ambassadeur de France en Chine. Et bon, qui vaut ce qu'elle vaut, elle montre un peu le caractère sacré peut-être de Taïwan pour les Chinois, d'accord. Néanmoins, je ne suis pas sûr du tout qu'ils soient prêts à mourir pour Taïwan. Je pense qu'ils veulent avoir des bonnes relations avec Taïwan. Et effectivement, ils pensent que Taïwan est chinois. Mais ça, c'est aussi l'ambiguïté. Parce que si Taïwan est chinois, faire la guerre à Taïwan, c'est faire la guerre à des Chinois. Et donc, tuer des Chinois.
Et le fantôme de la guerre civile, il faut l'assumer. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Frédéric Lemaître, quel est l'état des relations industrielles, commerciales, voire éventuellement matrimoniales entre la Chine continentale et Taïwan?
Taïwan et la Chine sont très 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 liés. Alors sur le plan démographique, puisqu'il y a de nombreux Taïwanais maintenant qui viennent, qui sont des descendants des nationalistes qui ont fui à Taïwan en 1949. Donc la plupart des Taïwanais ont un membre de leur famille en Chine. Quand on a des relations en Chine, ça c'est évident. Même parmi les indépendantistes, à chaque fois que vous parlez avec eux, je dis, vous êtes déjà allé en Chine? Alors, moi non, mais mon père, mais ma cousine, etc. etc. Voilà.
Ça circule.
Évidemment, il y a des relations industrielles très fortes. On l'a dit, Foxconn qui fabrique les iPhones en Chine et qui a les plus grandes usines du monde, appartient à des capitaux taïwanais.
Eh oui.
Donc voilà, bon.
Voilà un lien fort quand même.
Évidemment qu'il y a un lien fort. Non, il y a des liens économiques et humains très très forts entre les deux, parties. J'ai dit sous forme de boutade que les plus beaux objets historiques chinois se trouvent au musée de Taipei. Et c'est vrai, ce n'est pas qu'une boutade. Donc voilà, il y a des liens évidemment très très forts entre les deux rives du détroit.
Les racines du présent. Frédéric Mounier.
Aujourd'hui, nous tentons de retracer l'histoire immédiate de la Chine en compagnie de notre invité, le journaliste Frédéric Lemaître, qui a été correspondant du Monde à Pékin de 2018 à 2023 et qui signe aujourd'hui un livre passionnant chez Talendier intitulé « 5 ans dans la Chine » de Xi Jinping. Il y a un point qu'on n'a pas encore évoqué, Frédéric Lemaître, mais qui tient à cœur à nos auditeurs, c'est la question des religions. On sait que le pape François est très contesté pour ses relations avec Pékin. Beaucoup pensent que, pour parler clairement, il se fait avoir par les autorités chinoises. D'autres imaginent que, compte tenu de la tradition jésuite en Chine, le pape poursuit coûte que coûte des tentatives de dialogue. Qu'est-ce que vous avez pu constater sur place sur l'état des religions en Chine, Frédéric Lemaître ?
Alors, je pense que pour les Chinois, il y a deux types de religions. Il y a les religions chinoises et voilà, et c'est notamment le bouddhisme, même si on peut en discuter l'origine, le bouddhisme, le taoïsme et le confucianisme, qui est à la fois une philosophie et une religion, et les religions importées, les religions étrangères, voilà, qui sont évidemment l'islam et les religions chrétiennes, le protestantisme et le catholicisme. Ouais. Donc ça, les premières sont autorisées, enfin tolérées, même autorisées et même maintenant intégrées par le parti.
Elles sont profondément enracinées dans la culture.
Elles sont profondément enracinées dans la culture et le parti essaye de les récupérer, on peut dire ça. Il y a maintenant une fédération mondiale du taoïsme, j'ai fait un article là-dessus, fin 2023, qui s'est créée sous l'égide du parti. Et donc voilà, ça fait affaire partie du soft power chinois. Mais ces églises sont vraiment surveillées de très près par le parti. C'est aussi le cas des religions étrangères qui sont surveillées d'encore plus près et là qui sont regardées avec suspicion.
Parce qu'elles sont étrangères.
Parce qu'elles sont
fondamentalement.
À la fois parce qu'elles sont étrangères et parce que le parti y voit une tentative de l'Occident d'influer sur le cours des événements en Chine. Et je dois dire que ça n'a pas été totalement faux de la part de certains évangélistes américains qui ont effectivement misé là-dessus pour ouvrir la Chine aux valeurs occidentales. Mais alors, moi, l'Église évangélique, c'est très difficile d'avoir des chiffres, mais le protestantisme a vraiment eu le vent en poupe. Je crois qu'on peut parler maintenant au passé. Ça a dû ça. D'après des experts, ça s'est plutôt arrêté vers 2010, 2012. Mais enfin, il y a quand même plusieurs dizaines de millions de protestants en Chine. Donc presque autant que de membres du Parti communiste. Et si on suit les courbes, ils devraient être plus nombreux. Les catholiques sont moins importants. On parle d'une dizaine de millions. Ouais. Voilà. Avec pendant longtemps une église officielle et une église officieuse clandestine. Une distinction qui n'a plus tellement de sens. Je pense que pour résumer, que ce soit chez les protestants ou chez les catholiques, les églises sont à peu près tolérées, tant justement qu'elles ne se coordonnent pas et qu'elles ne montrent pas le moindre mouvement d'opposition au parti, et même qu'elles ne font pas de vagues et que le parti veut même éviter qu'elles fassent du prosélytisme. Voilà.
C'est surtout ça.
C'est surtout ça. Les mineurs ont beaucoup de mal à rentrer dans une église. Théoriquement, les parents n'ont pas le droit d'emmener leur enfant mineur à la messe, etc., etc.
Donc, il y a des restrictions fortes.
Et évidemment, qui
s'explique par l'histoire.
Qui s'explique par l'histoire et aussi par la géopolitique. Alors, de fait, le Parti communiste a signé un accord avec le Vatican sur la nomination
un accord qui
conjointe.
Reste secret.
Un accord dont le contenu reste officiellement secret. Voilà. On pense que c'est plutôt... Il y en a un qui nomme les évêques et l'autre qui donne son aval. On ne sait pas exactement dans quel ordre ça se passe. Personne ne veut le dire pour ne pas perdre la face ou faire perdre la face à l'autre.
Oui, c'est un petit peu... Certains historiens nous ont dit à ce micro que les autorités chinoises sont tentées par une forme de bonapartisme et qu'elles voudraient instaurer instaurer un régime, enfin une relation avec le catholicisme, avec qui soit identique à celle que Napoléon Ier avait voulu instaurer avec l'Église de France à la sortie de la Révolution, c'est-à-dire une Église nationale aux ordres du pouvoir.
Non, mais c'est ça, oui. C'est ce que j'ai dit. Le parti doit tout contrôler. Donc, c'est pas seulement les religions, c'est également, enfin, toutes les associations. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de société civile en Chine organisée. Il n'y a pas véritablement d'ONG indépendante. Il n'y a pas d'église véritablement indépendante. Il n'y a pas, voilà, même d'association de pêcheurs à la ligne ou de joueurs de mahjong véritablement indépendants. Il y a un moment, il y a toujours un lien vers le parti. Donc, voilà. Il y a, il y a une opinion publique, mais il n'y a pas de société civile organisée en dehors du parti. Le parti contrôle tout. Voilà, Xi Jinping l'a rappelé.
Alors, les points de faiblesse de cet édifice absolument considérable. La question des retraites est souvent évoquée, Frédéric Lemaître. Pouvez-vous nous rappeler comment est-ce que ça fonctionne en Chine du point de vue de la démographie?
Oui, alors, c'est d'ailleurs un des aspects assez passionnant. Ça prouve que le parti ne contrôle pas tout. Pourquoi?
Finalement.
oui, absolument. Ouais. C'est ça qui est bien. C'est que la démographie donc décline. Apparemment, la population a l'air de commencer à diminuer. C'est toujours compliqué à dire, mais enfin, bon, et clairement, il y a maintenant moins de naissances que de décès en Chine. La politique de l'enfant unique a fait des ravages, mais même si la politique de l'enfant unique appartient au passé, depuis 2015, les Chinois sont encouragés à avoir deux ou trois enfants, mais ça marche pas. Donc, voilà, le parti ne peut pas.
Donc, le pays vieillit.
Le parti vieillit parce que le système de santé progresse. Et voilà. Maintenant, les Chinois vivent plus longtemps que les Américains, symboliquement. Les deux courbes se sont croisées pendant les années Covid, 2021 ou 2022. Voilà. Donc les Chinois vivent, je crois, en moyenne 77 ans. Mais ils continuent à prendre leur retraite à 55 ans, voire 50 ans pour les femmes.
C'était les bienfaits du communisme.
Et 60 ans pour les hommes. C'était les bienfaits du communisme. C'était aussi un moment où l'espérance de vie était d'à peu près 60 ans. Donc voilà, maintenant ça a quand même énormément progressé. Et c'est là aussi que ça prouve que l'opinion a quand même son mot à dire. C'est que... Évidemment, enfin, tout le monde sait qu'il faudrait prendre un décret pour retarder l'âge de la retraite.
Comme chez nous.
Comme d'autres pays l'ont fait, effectivement, vous en avez cité un. Mais la Chine n'ose pas, elle ne le fait pas.
Ça serait trop risqué politiquement.
Ah ben, je pense qu'ils savent que c'est impopulaire, voilà. Donc c'est très intéressant. Et donc il va y avoir, c'est évident que la réforme de la protection sociale est un des grands enjeux des années à venir et pour compenser ce déséquilibre démographique et de deux aussi, on l'a vu en France et dans toute l'Europe, c'est le welfare state, c'est la sécurité sociale mise en place dans les années 45 qui a permis le développement spectaculaire, voilà, les 30 glorieuses qui ont suivi. Et là, le fait qu'il y ait très peu de protection sociale est une des explications qui fait que les Chinois sont obligés d'épargner en cas de coup dur, voilà, tout simplement. Et c'est aussi pour ça qu'ils consomment peu. Donc même économiquement, je pense que la Chine aurait intérêt à avoir un meilleur filet de protection sociale.
Donc un point de faiblesse.
Absolument.
Alors on arrive bientôt au terme de cette passionnante conversation, Frédéric Lemaître. Dans votre conclusion, il y a un point qui m'a intrigué. Vous écrivez « Par certains côtés, nous adoptons le modèle chinois sans que Xi Jinping ait besoin de lever le petit doigt ». Que voulez-vous dire, Frédéric Lemaître?
Ah ben, ça me paraît assez évident. Si vous prenez l'axe sécurité versus liberté, nous, on a souvent mis la liberté en avant. On voit bien maintenant que la sécurité est en train de l'emporter.
Ce qu'on appelle la protection, demande de protection, c'est ça? On ne parle pas de vidéosurveillance, mais de vidéoprotection.
Et voilà, c'est exactement la même chose en Chine. Donc, on voit bien ça. Autre exemple, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, nous, les GAFA, les Google, tout ça, nous ont dit pendant plus d'une décennie, nous ne sommes que des tuyaux, le contenu, ce n'est pas notre affaire, voilà. Dès le début, la Chine a dit aux opérateurs télécoms, vous êtes responsable du contenu que vous diffusez et donc c'est à vous de faire la censure. Et si vous ne faites pas la censure, alors évidemment, aux caractéristiques chinoises, donc parmi ce qui devait être censuré, évidemment, il y a les critiques du parti. Mais plus fondamentalement, voilà, le parti a délégué aux opérateurs télécoms la propre censure et en les menaçant de leur retirer leur licence s'ils ne le faisaient pas. Voilà. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire, nous? On est en train exactement de faire la même chose. Oui. Voilà. Donc voilà, ces deux axes-là montrent bien.
La reconnaissance faciale s'étend partout chez nous, alors qu'elle est omniprésente en Chine.
Et voilà, absolument. Mm-hmm. Donc il y a quand même. Voilà, maintenant, la Chine ne parle plus que de sécurité nationale. Tout devient une question de sécurité nationale. Mais c'est la même chose aux États-Unis où maintenant on se dit que les voitures électriques chinoises peuvent porter atteinte à la sécurité nationale américaine, etc. TikTok aussi. Donc voilà, ce discours chinois devient un discours mondial.
Et donc, nous devons veiller à cela. C'est ça, au fond, votre message,
Je pense que les dirigeants occidentaux surestiment l'influence qu'ils peuvent avoir sur Xi Jinping. Je pense que Xi Jinping, ce qui intéresse, c'est ce que pensent les 100 millions de membres du parti et éventuellement le 1,4 milliard de Chinois. En revanche, les occidentaux sous-estiment l'importance de l'influence de la population chinoise sur ses dirigeants. Et donc, si ces deux axes sont vrais... Ce qu'il faut, c'est si on veut influencer la Chine, c'est influencer la population. Et influencer la population, le jour où la démocratie sera certaine de ses valeurs et on pensera de nouveau que la démocratie, c'est la condition de l'efficacité et du bonheur, je pense que les Chinois ne sont pas plus bêtes que les autres et souhaiteront avoir un régime davantage démocratique.
Donc on peut envisager un régime démocratique en Chine ? Alors même que la Chine ne l'a jamais connu.
Alors, si j'étais provocateur, je dirais que Taïwan prouve qu'on peut être chinois et démocratique. Tout bêtement, c'est un des problèmes que pose Taïwan à la Chine, République populaire de Chine, ferme la parenthèse. Donc, je pense qu'actuellement, les Chinois ne sont pas pour une démocratie à l'occidentale. Enfin, voilà. Mais ils sont évidemment pour avoir plus de liberté, ils veulent pouvoir s'enrichir, voyager et pouvoir consommer et dire ce qu'ils pensent, évidemment, comme tout le monde.
Un tout dernier mot avant de vous dire au revoir, Frédéric Lemaître. Certains observateurs nous disent que la Russie est en train d'être vassalisée par la Chine. Est-ce que vous partagez ce point de vue ?
Je partage en partie ce point de vue. D'un autre côté, ce qui est très intéressant, c'est que jamais la Chine ne laisse entendre qu'elle a pris le dessus sur la relation avec la Russie et qu'elle méprise la Russie ou même que la relation est déséquilibrée. Je veux dire, quand on voit Xi Jinping qui a quand même rencontré, je crois, 62 reprises maintenant Poutine, à chaque fois, c'est l'amitié entre égaux, etc. Néanmoins, donc ça, c'est vraiment la propagande. Et ça compte aussi les mots dans ce régime-là. Mmh. Néanmoins, de fait, la Chine est en train de prendre l'ascendant dans la relation économique qu'il a liée à la Russie, c'est évident.
Du point de vue économique, la Chine est beaucoup moins fragile que la Russie aujourd'hui.
Ah ben évidemment, bien sûr, oui, tout à fait. Bien sûr, elle est beaucoup plus puissante et moins fragile. Alors que on l'a presque oublié, mais c'est vrai que jusqu'aux années 60, la Chine a été vraiment vue comme une élève de l'Union soviétique, puisque la révolution communiste est venue de Moscou, et donc c'était l'élève chinois. Bon, ben maintenant l'élève a fait sa révolution aux caractéristiques chinoises, et l'élève a dépassé le maître, clairement.
Un grand merci à vous, Frédéric Lemaître, pour avoir éclairé notre lanterne sur cet empire du milieu, Zhongguo, c'est-à-dire l'empire du milieu. C'est comme ça que on dit la Chine en chinois. Un grand merci. Je recommande vivement la lecture de votre livre, donc 5 ans dans la Chine de Xi Jinping, par le correspondant du Monde à Pékin. Je recommande aussi vivement à nos auditeurs aujourd'hui, pourquoi pas, de se rendre en Chine, puisque on peut y aller en touriste, que les Chinois attendent les touristes européens, et qu'il y a énormément de choses à découvrir, et pour prendre conscience à quel point cet univers, d'une part, nous est étranger, et d'autre part, est aujourd'hui au centre du monde. Ouvrons-nous à la Chine, alors même que la Chine a du mal à s'ouvrir à l'étranger. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les références des livres de notre invité sur les sites de RCF, de Radio Notre-Dame. Vous pouvez bien évidemment nous réécouter en balado-diffusion et en podcast, dans le métro, dans le train, dans le bus, en voiture, en faisant votre course, en faisant vos courses. N'hésitez pas, les Racines du Présent, c'est plus de 40 éditions par an, toutes plus passionnantes les unes que les autres, pour nous aider à comprendre comment est-ce que les racines de l'histoire peuvent expliquer le présent. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité et nous vous disons à la semaine prochaine.
Merci à vous.